Bonjour tout le monde, ça va bien? Donc aujourd'hui, on va continuer notre série sur la souffrance. Et puis, en commençant, j'aimerais vous montrer une image. C'est celle-là. C'est qui ça? Alors, devinez, là, je suis sûr que dans votre culture, dans le passé, là, cette image-là, vous savez c'est qui? C'est Jésus? Dans Jésus de Nazareth. Le film, là, sur la vie de Jésus, c'était lui, Jésus, dans le film. Moi, quand j'écoutais ce film-là, quand j'étais jeune, là, je l'écoutais pas longtemps ou souvent, là, parce que, mon ami, c'était très, très, très long comme film. Mais il m'a donné l'image d'un Jésus très froid, très stoïque, pas d'émotion. Regardez-y à la face. Il y a à peu près le même, il y a à peu près le même visage du début à la fin. Ouais. Hey, j'écoutais l'extrait matin pour aller chercher la photo là, puis c'était pendant le baptême de Jean-Baptiste, puis de Jean-Baptiste qui le baptise, puis là de Jésus qui arrive. Et comme ça, la même face que ça. Puis là, il dit non, c'est correct. Ce qui est bien doit être accompli, tu sais. Puis là, il le baptise, puis après ça, il s'en va. T'as dit, il marche de même, là. Je suis comme, mon ami. Et ce film-là a ancré en moi une image de Jésus qui est froid, qui est distant, qui est au-dessus de tout et qui est d'une humeur stable. Complètement déconnecté de la réalité. Comme si Jésus n'était pas vraiment humain. Comme si il était froid de tout ce qui l'entoure. Hein? Mais ça, c'est l'image, en tout cas, que ce film-là m'a donnée de Jésus. Et il y a un verset dans la Bible qui me rassure. C'est Jean 11, 35. Au moins, c'est écrit, « Jésus pleura. » Hein? Fait qu'on peut se consoler. Jésus n'était pas un être stoïque, qui avait pas d'émotion, qui était détaché et froid de tout. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a pleuré. C'est le verset le plus court dans toute la Bible. Deux mots. En Jean 11, 35, Jésus pleura. Et on utilise souvent ce verset-là pour démontrer que Jésus avait des émotions. Mais moi, la chose qui m'intrigue, OK, c'est pourquoi qu'on a besoin de prouver ça. C'est quoi l'image qu'on a de Dieu, de Jésus, pour avoir en enfer la démonstration que Jésus avait des émotions, que Dieu a des émotions? Il me semble, c'est tellement faussé comme image qu'au départ, on n'aurait jamais dû l'avoir ancré en nous. Cette idée-là que Dieu, que Jésus n'a pas d'émotions. Puis, on regarde le sujet de la souffrance. Et dans les dernières semaines, on a parlé de la souffrance sous un angle du plus philosophique. Hein? Vous vous souvenez, on a répondu aux grandes questions, le pourquoi, d'où ça vient, toutes ces choses-là. Puis comme j'avais averti au début, quand on regarde le sujet de la souffrance sur un angle un peu plus dans la sphère de la réflexion, de comprendre le grand plan d'ensemble avec un pas de recul, ça peut nous laisser avec une image de froideur, de distance, d'insensibilité, OK? Et c'est important de le regarder sous cet angle-là, mais pas seulement sous cet angle-là, OK? Et le fait qu'on ait regardé autant l'idée que Dieu, il est souverain sur tout, OK? Donc, on a vu que la souffrance n'est pas un accident dans le monde. C'est pas le plan B de Dieu, parce qu'il est souverain sur tout. Et Dieu n'est pas soumis au mal et à la souffrance. C'est lui qui domine sur le mal et la souffrance. Et c'est rassurant de savoir que notre Dieu domine sur la souffrance, parce que quand on est en train de traverser des périodes de grande souffrance, c'est rassurant de savoir que Dieu est au contrôle malgré le fait que la situation nous dépasse. Si ça serait l'inverse, que Dieu agit pour le mieux dans la souffrance, mais qu'au final, c'est la souffrance, c'est le mal qui domine, ben, quand on serait dans nos souffrances, ben, ça irait mal. La détresse serait réelle. Parce que si on est dépassé par les événements et que Dieu l'est également, ça va pas bien. Mais cette idée-là laisse cette conception-là que Dieu est souverain de tout, OK, peut nous amener à penser que Dieu est distant et froid face à la souffrance. Qu'à la limite, Dieu peut être un Dieu un peu un chef despotique qui fait subir aux autres ce que lui-même ne voudrait pas subir. Comprenez? Ça peut laisser place à ça aussi, cette conception-là. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de un peu prendre ce chemin-là. On va commencer cette semaine, on va probablement continuer la semaine prochaine aussi. Mais de réfléchir à qui est vraiment, véritablement, notre vrai ennemi là-dedans. OK? Et j'aimerais qu'on tourne dans Jean, chapitre 11. On va regarder le passage dans lequel Jésus a pleuré. Jean, chapitre 11. On prend le temps d'aller prier, de prier avant de continuer. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, on se tourne vers toi. Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour regarder à qui tu es vraiment, Seigneur. Qu'est-ce que ta parole, Père éternel, nous dit de toi? Père, la culture, la société, le monde dans lequel on a grandi, Seigneur, nous véhicule l'image de toi, Père, souvent comme étant détaché, loin de nous, Seigneur, insensible à la souffrance, insensible à ce que l'on vit, Père éternel, mais on voit dans ta parole que c'est complètement faux. Ce matin, Seigneur, viens nous diriger dans le temps qu'on va prendre ensemble à regarder ta parole. Viens disposer nos cœurs, Seigneur, ce matin, à entendre, à voir, Seigneur, ce que tu veux que l'on comprenne. Viens, Seigneur, dans ton amour et ta grâce, confronter nos mauvaises conceptions, Seigneur, que nous pouvons avoir sur toi. Père éternel, dispose nos cœurs ce matin. Au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. Donc, on est Jean chapitre 11. On a passé à travers le livre, l'Évangile de Jean, il n'y a pas très longtemps. On connaît très bien ce passage-là de la résurrection de Lazare. Verset 1, chapitre 11. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Voici, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Donc on voit la proximité entre la famille de Lazare et Jésus. L'intimité, l'amour qu'il y a entre les deux est palpable. Verset 4, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu y retournes? Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi. » mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Donc, on a la mise en scène ici. On a Jésus qui apprend que Lazare est malade. Jésus aime Lazare profondément, aime ses deux sœurs profondément. C'est des gens qui est proche. Et Jésus, d'une façon délibérée, reste là encore 2 jours pour s'assurer que Lazare est bien mort. Mais quelle sorte d'amour que c'est ça! Et là, il avertit ses disciples, il dit, « Lazare est mort et je me réjouis de ce qu'il soit mort. » Pourquoi? Jésus savait ce qu'il allait faire. Dès le départ, là, Jésus savait qu'est-ce qu'il allait faire. Il faut comprendre, c'est pas dans le fait que Lazare est mort que Jésus est content. Jésus n'est pas en train de se réjouir de la mort ici, là, de Lazare. Absolument pas. Il est en train de se réjouir de l'œuvre qui va être faite à cause de la mort. Et on voit des parallèles avec le ministère principal de Jésus qui est venu nous délivrer de la mort ultime. Jésus, il n'a pas pris de plaisir sur la croix. Aucun. Il a subi les pires souffrances que nous-mêmes, on n'endurera jamais autant que ce que lui a vécu sur la croix pendant ces 3 heures-là qui était sur la croix. Mais Jésus regardait à la croix avec joie à cause de l'œuvre que celle-ci allait accomplir. Et c'est la même chose. C'est la même chose ici. Donc, Jésus savait que Lazare était mort et il dit, « On s'en va là. » Donc, les disciples, il s'en va avec ses disciples, et puis on continue à lire, on est rendu, verset 16. « Sur ça, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi afin de mourir avec lui. » Les disciples étaient sûrs que Jésus allait mourir parce que ça s'était mal passé la dernière fois qu'il avait été en Judée, dans ces coins-là, il avait essayé de le lapider, puis là, il y avait beaucoup de chicanes entre lui et les pharisiens. On s'en souvient, mais c'est pas le sujet de ce matin. Beaucoup de Juifs, verset 19, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, il s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le Maître est ici et il t'appelle. Dès que Marie ait entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison de Marie et la consolaient, la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie arrivait là où était Jésus et elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis? »« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Verset 35, Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? » Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau, c'était une grotte, et une pierre était placé devant. Donc, on a ici la réaction de Jésus face à la mort de Lazare. Verset 33 puis verset 38, on utilise le mot indigné ou frémi, ému. Et le terme en grec qui est là, l'autre traduction, c'est « frémissait en lui-même et fut ému ». Le mot « frémir », qui est traduit ici par « profondément indiqué », le vrai sens de ce mot-là est celui-ci. C'est dans le sens d'une colère. Étrange, hein? Et c'est un terme, c'est une colère très, très forte. Et pour moi, le simple fait de voir le sens de ce mot-là vient remettre en question la première lecture que je fais de ce passage-là. On peut dire que Jésus, là, il aimait tellement Lazare, là, que même s'il savait qu'il allait le ressusciter, là, ça l'a attristé pareil, que son ami soit mort. Mais est-ce que c'est vraiment ça, la raison pour laquelle Jésus pleurait? Parce que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Jésus n'est pas hypocrite. Il sait. Et puis, dans certains commentaires que j'ai lus, Je vais aller le lire parce que je ne veux pas me tromper. Je pense que je vais sauter ça. Jésus, il est en colère contre quoi? C'est contre la mort qui est en colère. Il pleure face à la tyrannie de la mort. C'est de ça qu'il est en colère. C'est de ça qu'il est indigné. Et il frémit au plus profond de son âme à cause des conséquences de la souffrance, à cause des conséquences de la maladie, à cause des conséquences de la mort. C'est contre ça que Jésus est révolté. Et le terme est fort. Hurler de colère. C'est pas juste « J'étais un petit peu fâché. » Ça vient le chercher au plus profond de lui-même. Il frémit et ça l'amène vraiment à l'idée de hurler de colère. Le théologien, M. Warfield, écrit, « Jean nous dit que Jésus ne s'est pas approché de la tombe de Lazare en proie à un chagrin incontrôlable, mais dans une colère impérissable. » irrépressible, il n'était pas capable de se contenir. Donc, Jésus était en colère et ses larmes étaient présentes à cause qu'il était en colère, fâché de la finalité de la mort. Il n'est pas insensible à ce que l'on vit. Il n'est pas insensible à la souffrance qu'on traverse. Il l'a vécu lui aussi. Et il est tout aussi frustré que nous de la finalité de cette souffrance-là, de ce mal-là qui est présent dans le monde, qui est ultimement la mort. M. Warfield dit également, en se basant sur le commentaire de Jean Calvin, il dit « Jésus était furieux devant la détresse de Marie et de ses compagnons parce qu'il avait compris avec beaucoup d'émotion que la mort apporte la douleur, qu'elle est contre nature et selon les mots de Calvin, une violente tyrannie. Il voit chez Marie, toujours selon Calvin, la misère et la calamité commune de tout le genre humain. Et il brûle de rage contre l'oppresseur des hommes. Il est saisi d'une fureur irrépressible et son être entier est bouleversé et perturbé. La mort est l'objet de sa colère. Et, avec la mort, celui qui en détient le pouvoir, celui qui est venu détruire. Les yeux de Jésus se remplissent de larmes, mais cela a peu d'importance. Son âme est en proie à une vive rage et il avance vers le tombeau, comme le dit Calvin, comme un champion se préparant au combat. Jean nous dévoile le cœur de Jésus alors qu'il gagne notre salut, non dans une attitude de froideur blasée, mais dans une colère brûlante contre l'ennemi. Il ne nous a pas seulement sauvé de ce qui nous opprime, il a ressenti notre oppression. Et, sous l'impulsion de ce sentiment, il a accompli notre salut. C'est ça que Jésus a fait dans ce passage-là. Jésus est en colère contre le mal, la mort et la souffrance. Bien qu'il soit Dieu, il n'est pas en colère contre lui-même. Ici, la colère est contre l'ennemi. Et cet élément-là est vraiment important. Parce que si ultimement, ça serait Dieu qui serait source de notre souffrance, de notre malheur, parce qu'il l'a permis, parce qu'il est tout souverain, Jésus ici ne serait pas en colère contre l'ennemi. Il serait en colère contre lui-même, parce qu'il serait responsable. Comprenez? C'est vraiment contre la mort, contre l'ennemi, que Jésus dirige sa colère. Sinon, sa colère, s'il serait responsable de ça, sa colère devrait se tourner contre lui. Le mal est donc ennemi de la création merveilleuse de Dieu et de Dieu lui-même. La mission même de Jésus a été d'affronter le mal et d'y mettre fin. Bien que Dieu soit souverain, il va gagner à la fin. Il tient chaque chose dans ses mains. Ça peut nous amener, cette attitude-là, à prendre la souffrance et le mal un peu avec légèreté. Puis, c'est pas grave dans ma vie si je souffre, c'est normal. Mais de toute façon, Dieu va gagner à la fin. C'est peut-être une façon pour nous d'étouffer notre souffrance, d'étouffer l'émotion. Il y a quelque chose là-dedans qu'on veut pas voir, on veut pas faire face. Mais c'est pas ça dont il est question, là. C'est pas ça qu'il faut faire avec le mal, avec la souffrance. Il faut comprendre que c'est l'ennemi de Dieu. Dieu n'y prend pas plaisir. On a le droit de haïr une sainte colère envers la souffrance, envers le mal. On a le droit de ne pas avoir le goût de la voir, de la tolérer, de l'endurer, de vouloir qu'elle parte, qu'elle s'en aille, qu'elle se tienne loin de nous, parce qu'elle est un intrus. C'est un ennemi. Bien qu'on ne puisse pas l'éviter, elle est quand même un intrus dans le monde et elle est là pour détruire. On a le droit d'être en colère contre. Oui, Chantal. Oui. C'est une intrusion. C'est une intrusion dans la création de Dieu. C'est une intrus. Et c'est un ennemi. Oui.
La chose est brisée, mais je hurle de colère, de frustration. Mais ça démontre que nous sommes précieux à Dieu.
Oui, je vais répéter pour l'enregistrement. Quand on essaie de se mettre un peu dans les souliers de Jésus, quand est-ce qu'on peut sentir une colère comme ça? C'est quand il y a quelqu'un qui brise quelque chose qui est précieux pour nous, d'une façon intentionnelle. Il est venu intentionnellement briser quelque chose qui était précieux pour nous. Donc là, on est en colère. Il y a quelque chose à laquelle on était attaché a été brisé. Et c'est exactement ce que Jésus vit. Et là, Jésus incarné, Dieu incarné en homme, Jésus, il la vit, il la confronte, il est en plein dedans. C'était des gens avec qui il était proche, il était dans l'intimité avec. Il a perdu un être cher à cause de cet intrus-là. Il y a quelque chose de précieux qui a été brisé. Et le mal, la souffrance et tout ce qui vient avec, c'est une intrus. Et ultimement, Dieu va la détruire. Le mal est donc ennemi de la création merveilleuse de Dieu et de Dieu lui-même. La mission de Jésus était à la fin de venir y mettre un terme. Cependant, le mal est tellement enraciné dans le cœur humain que si Christ s'est incarné dans toute sa puissance pour l'éradiquer sous toutes ses formes, il aurait dû nous détruire également. Il aurait dû nous détruire si, à ce moment-là, il serait venu pour éradiquer toute la souffrance, tout le mal. Il aurait fallu qu'il élimine tout au complet. Il n'est pas venu comme un général avec son armée. Il est venu dans la faiblesse jusqu'à la croix pour payer nos dettes, les dettes de nos péchés, la dette de nos péchés. Il reviendra un jour éradiquer le mal sans avoir à nous juger en même temps. Et c'est là qui est merveilleux. Oui, la période qu'on est en train de vivre, c'est difficile, c'est souffrant. Et on est dans la période de la patience de Dieu. Parce que Dieu déteste le mal, déteste l'ennemi et il veut le détruire. Mais s'il le fait maintenant, il faut qu'il nous détruit avec. Et à travers l'œuvre de Jésus, il a ouvert une porte pour ne pas rentrer dans ce jugement-là, dans cette condamnation-là qui va avoir lieu à la fin, où est-ce que le mal va être éradiqué complètement à la fin. Qui est le véritable ennemi dans tout ça? Qui est le véritable ennemi? D'innombrables textes bibliques désignent clairement que celui qui est à l'origine de nos souffrances et complète ceux de la Genèse, c'est Satan. C'est un démon qui jette à terre l'épileptique dans Luc 9, 42. Devant Jésus, quand Jésus s'est présenté devant le jeune homme qui était possédé, c'est le démon qui l'a jeté à terre pour lui faire du mal. C'est Satan qui frappe Job d'un ulcère malin, des pieds à la tête, après lui avoir pris tout le reste, dans Job 2, 7. C'est le diable qui détient le pouvoir de la mort, dans Hébreux 2, 12. C'est Satan qui est le prince de ce monde, dans Jean 12, 31. C'est toujours Satan, à Satan qu'appartient la gloire et le pouvoir des royaumes, dans Luc 4, 6. Ne nous trompons pas d'ennemis et n'accusons pas Dieu de ce que Satan a fait naître et grandir. Quand on regarde les souffrances dans le monde, quand on regarde des photos d'un enfant qui est en train de mourir de faim dans un autre pays, la question qui nous vient en tête bien souvent, c'est quoi? Comment est-ce que le Seigneur peut laisser passer des choses comme ça? Comment est-ce que le Seigneur peut faire en sorte que des affaires de même se produisent, puis rien faire? À qui qu'on pense comme étant le responsable de tout ça? Trop souvent, c'est Dieu qui nous vient en tête. Trop souvent. Mais au lieu d'avoir le visage de Dieu sur ces images-là, sur ces faits-là, pourquoi que ce n'est pas celui de l'ennemi à la place? Et c'est là qu'on voit que dans notre conception, on tient Dieu beaucoup plus que ce qu'on pourrait le penser comme étant le responsable de notre douleur, de nos souffrances, de notre malheur. Au lieu de voir le visage de Satan et d'être en colère contre le véritable, la véritable personne qui est à l'origine de notre souffrance. Nous nous trompons d'ennemis et accusons Dieu de ce que Satan a fait naître, grandir. C'est lui qui est l'investigateur de la souffrance, cherchant ainsi à nous faire douter de l'amour de Dieu. N'est-ce pas là un mécanisme bien connu, faisant accuser l'autre pour sa propre fourberie? Satan y est habile. Il réussit à nous faire croire que Dieu est responsable de quelque chose dont il est l'auteur. Ne soyons pas dupes. Jésus, Fils du Dieu vivant et Dieu lui-même, serait-il venu sur la terre au prix de sa vie pour guérir les hommes de toutes les souffrances qu'il aurait lui-même envoyées? Absolument pas. Un royaume ne lutte pas contre lui-même. Jamais. Et Jésus a lutté contre le royaume de Satan tout le long de sa vie, dans son ministère. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il guérissait. Il guérissait. Il guérissait. Il attaquait le royaume de Satan de tous bords, tous côtés. Et Satan ne pouvait pas se défendre parce que Dieu était trop puissant. Et il est encore. Et remercions Dieu de bien vouloir transformer les œuvres de Satan en bénédiction pour notre salut et de ne pas nous abandonner entre les mains de celui dont l'un des buts est de ne pas aller seul en enfer. Ainsi, quand l'ennemi envoie une souffrance, Dieu l'utilise pour notre salut. Notre responsabilité est donc de faire la part des choses, d'avoir les idées bien claires sur qui fait quoi, et d'autre part, d'être débarrassé de la suspicion envers notre Dieu, de marcher résolument dans son plan. C'est une grâce que, ultimement, ce soit Dieu qui soit en autorité. Parce que Dieu est capable de prendre l'œuvre de Satan et la faire tourner au bien dans chacune de nos vies. Ayons le bon visage sur nos souffrances. C'est Satan l'ennemi. Et Dieu nous fait une grâce en ayant le contrôle sur tout ça, du fait qu'il est capable de prendre l'œuvre destructrice de Satan et de la faire concourir au bien dans nos vies, pour nous rapprocher de lui, pour nous faire apprendre des choses qu'on a encore besoin d'apprendre. Et c'est une grâce de se savoir entre bonnes mains. Dieu n'est pas indifférent et froid face à ce que nous vivons pendant notre vie. Lorsque nous voyons une tragédie, une injustice, voyons le bon visage de celui qui est responsable. Sachez que la souffrance et le mal ne viennent pas de lui, de Dieu, qu'elle est son ennemi et qu'il va l'éradiquer totalement. Réjouissons-nous de cette vérité ensemble. Allons dans la prière, par la suite on va pouvoir continuer à louer, à adorer. Oui, Seigneur Jésus, on veut te louer, on veut t'adorer. On est réunis ensemble, Seigneur, et c'est toi qui nous as réunis ici ce matin. Merci, Seigneur, de ta bonté, de ta grâce. Merci, Seigneur, de ce que tu es souverain sur tout, sur toute chose. Merci, Seigneur, de ce que tu domines sur la souffrance, sur le mal. Et, Seigneur, tu n'y prends pas plaisir à ces œuvres que Satan accompli, Père, dans ce monde. Mais Seigneur, tu les prends et tu es capable de les faire tourner au bien. Tu es capable de restaurer, Seigneur. Et ultimement, tu vas le faire d'une façon parfaite. Quand tu vas revenir établir ton royaume sur la terre, Père éternel, tu vas mettre fin à ces souffrances. Merci, ô Éternel. Tu vas essuyer toutes larmes. il n'en aura plus. Seigneur Jésus, on peut aller devant toi avec confiance, sachant, Seigneur, que tu n'es pas l'auteur de nos souffrances, de nos malheurs. Sachant, Seigneur Jésus, que tu désires restaurer, tu désires prendre soin. Tu n'es pas indifférent à nos souffrances, Seigneur. Tu les as traversées, tu lui as fait face, comme on a vu, Seigneur, avec Lazare ce matin. Tu nous comprends, Père éternel. Seigneur, donne-nous de mettre le bon visage sur nos souffrances, sur les souffrances qui sont autour de nous, Père éternel. De ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, de te tenir responsable. On a besoin de que tu fasses cette œuvre dans chacune de nos vies, Seigneur. Viens mettre en lumière, Seigneur Jésus, les fausses revendications qu'on a contre toi, Père éternel. Les fausses amertumes, les fausses colères, Seigneur Jésus. Viens les mettre en lumière pour qu'on les dépose au pied de ta croix, Seigneur, avec humilité. Et que, Seigneur, on vienne avoir une juste perspective de la source de ces souffrances, de qui en est responsable, Père éternel, parce que ce n'est pas toi. Merci, ô éternel. Fais cette œuvre dans chacune de nos vies, pour ta gloire. Amen. J'inviterai Robert.